On peut se tourner dans 2 Pierre 3. On continue l'étude. Ce matin, on va finir l'étude de 2 Pierre 3 et donc des lettres de Pierre. Ça me donne d'autant plus envie de bien finir pour vous laisser sur une note forte, que ces choses que nous avons étudiées dans Pierre puissent vous toucher, vous changer, puissent être ancrées dans vos esprits, dans vos cœurs. J'hésite où nous faire commencer à lire. En fait, j'aimerais commencer, vous pouvez vous tourner dans 2 Pierre 1. On va un petit peu se rappeler ce qu'on a vu jusqu'à ici en relisant ensemble. On profite du fait que ce soit des petits livres pour essayer de voir un petit peu plus le tout. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, car je sais que je quitterai bientôt ce corps comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. Il continue avec le passage sur les faux enseignants dont il faut se méfier, et on va sauter au début du chapitre 3. Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des hommes moqueurs, pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront où est la promesse de son retour. En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Notre étude aujourd'hui va commencer au chapitre 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Pierre nous a parlé de la patience de Dieu. Il nous a parlé du fait qu'il y a des gens qui... Pierre annonce des gens qui vont venir et qui vont se moquer, qui vont dire « Il ne se passe toujours rien, elles sont où ces promesses ? Elles sont où ces choses qui ont été annoncées ?» Et il nous dit « Dieu ne s'est pas endormi, n'a pas oublié, etc. » Il patiente parce qu'il a de l'amour pour les hommes, parce qu'il veut qu'il y ait plus d'hommes qui viennent à lui. Et plus il attend, plus il y a d'hommes, il y a de temps pour que les hommes viennent à lui. Pierre, le pasteur, en a parlé. S'il était venu avant que nous ne soyons venus à lui, pour beaucoup d'entre nous, nous serions perdus. Et donc pour nous, cette patience, comme il le dira plus loin dans le texte, est notre salut. Ça nous a permis, il y a le sacrifice de Jésus à la croix, mais il y a aussi le fait qu'il y ait le temps pour y venir. Et en suivant cette idée, on vient ici à un point de transition. Il dit Dieu attend, il veut que autant que possible il y ait de gens qui rentrent dans le royaume. Mais Pierre il dit mais soyez-en sûrs, il vient un jour où il sera trop tard. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Qu'est-ce que c'est que ce jour du Seigneur ? On peut dire que c'est une idée, une doctrine qui est ancrée dans le nouveau, dans l'Ancien Testament. Il y a peut-être 25 ou 30 passages différents dans l'Ancien Testament qui utilisent cette expression, qui parlent du jour du Seigneur. Il y a des passages dans Ésaïe qui parlent d'un jour de dévastation, où Dieu va faire disparaître les pécheurs de la surface de la terre, dans Ésaïe 13, les versets 6 et 9, dans Ézéchiel 13 et dans le chapitre 13 et le chapitre 30, il parle d'un combat en Israël, d'une période de jugement réservée aux nations. Dans Joël, dans chaque chapitre du prophète Joël, il parle de ce jour de l'Éternel. Il dit que l'Éternel va venir avec son armée. On a vu cette semaine dans l'étude de la Bible en 24 heures que le peuple d'Israël attendait ce jour du Seigneur, parlait de ce jour du Seigneur en parlant du retour du Messie et s'en réjouissait. Il se disait, on est le peuple de Dieu, le Messie va venir, on va triompher avec le Messie. Et les prophètes de l'Ancien Testament, et notamment Amos, si vous voulez vous y tourner, s'il y a un passage à regarder, je regarderai peut-être celui-là avec vous. Dans Amos, le chapitre 5, le verset 18, il dit: Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qu'un ours surprend. Il gagne sa maison, appuie sa main contre le mur et un serpent le mord. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Les prophètes de l'Ancien Testament parlent de ce jour de l'Éternel comme d'un avertissement pour le peuple d'Israël parce qu'il n'était pas dans le bon chemin vis-à-vis de Dieu. Il ne faisait pas la volonté de Dieu, il n'était pas justifié devant Dieu, ils étaient en tort. Et Dieu leur reprochait leur comportement et les prophètes disaient, le jour de l'Éternel, vous l'attendez, vous pensez que ça va être votre triomphe, mais si vous n'êtes pas dans la volonté du Seigneur, la vérité de ce jour va vous surprendre. Alors il y a d'autres passages, il y a dans Abdias, dans Sophonie, dans Zacharie, dans Malachie, et on en parle aussi dans le Nouveau Testament. Pierre, dans le sermon, dans Actes 2, déjà le même Pierre cite Joël et parle de ce jour, mais lui en parle de manière plus positive sur l'effusion du Saint-Esprit comme étant quelque chose avant ce jour. Il y a dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, ici dans Pierre et dans l'Apocalypse. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un jour, 24 heures. On vient de voir au verset précédent que pour le Seigneur, un jour, c'est comme 1 000 ans et 1 000 ans, c'est comme un jour. Que ce n'est pas forcément exactement un jour exact. C'est une période de jugement où le Seigneur va venir et va corriger la situation. On pourrait dire que notre époque actuelle, l'histoire jusqu'à présent, c'est le jour de l'homme. Un petit peu comme on pourrait parler d'une ère ou d'une époque, c'est le temps de l'homme actuellement. On est là. Et le jour du Seigneur, c'est l'époque du Seigneur qui arrive. C'est l'époque où le Seigneur va régner, où le Seigneur va faire sa volonté. Et la Bible nous apprend que ce changement, ce temps, va commencer avec surtout avec ces cataclysmes et ce temps de jugement. On peut assez facilement être tous d'accord pour dire que le monde actuel est mauvais. Il est plein de péchés, plein d'injustices, plein de guerres, plein de choses qui ne sont pas bonnes. On a tous dans nos cœurs envie de quelque chose d'autre. On a un désir pour autre chose. Et comment est-ce qu'on peut passer de ce monde actuel à un monde tel qu'il devrait être, tel que Dieu l'a voulu, un monde qu'on pourrait qualifier de paradis? La Bible nous apprend qu'il va falloir un temps de jugement de la part de Dieu et un temps ça va être une transition violente, cataclysmique. C'est ce qu'on voit dans Apocalypse. Si vous voulez, vous pouvez vous dire le jour du Seigneur, ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est cette période où il va avoir des cataclysmes et des choses incroyables qui vont avoir lieu sur terre et que la Bible nous dit sont le jugement de Dieu sur l'homme. Il va déverser sa colère, il va juger l'homme. Après avoir attendu, avoir patienté autant que possible, il va venir un moment où Dieu va dire maintenant, je dois punir le péché, je dois punir cette rébellion. Et ça va être une transition violente. Ce matin, pour essayer de vous aider à vous souvenir de cette idée et de ce dont parle Pierre, mettez-vous en tête l'idée de changement de régime. Pensez à l'histoire, à vos cours d'histoire, les changements de régime politique, militaire dans l'histoire humaine. Pour passer d'un régime à l'autre, est-ce que ça se fait tranquillement, petit à petit, de manière sympathique, et surtout s'il s'agit d'un régime en place, d'un pays ou d'un gouvernement qui est mauvais, qui fait des choses, qui abuse de son pouvoir, qui maltraite le peuple, qui maltraite des personnes. Pensez à l'histoire. L'histoire récente, si vous pensez aux nazis, si vous pensez aux soviétiques, si vous pensez à plein de situations, quand il y a des changements de régime, où il y a un changement radical dans le fond de celui qui gouverne et de la manière dont les choses sont faites, c'est toujours assez catastrophique, assez violent. Et c'est ce que la Bible nous montre clairement. C'est tous ces passages, il y en a plein, hein, c'est pas une fois on tire un verset et puis on construit tout un truc dessus sur une petite demi-phrase. C'est quelque chose qui apparaît de partout. De partout dans la Bible. Si vous lisez un petit peu la Bible par vous-même, si vous prenez le temps de lire les prophètes ou dans le Nouveau Testament, vous allez tomber sur cette idée du jour du Seigneur. Donc souvenez-vous de ça, de ce changement de régime. Et l'idée, et le pour pas rester dans l'idée que de catastrophe, mais c'est aussi un petit peu comme l'idée de changement de régime. Si on est, comment je pourrais dire, si on est du côté de l'ancien régime, quand le nouveau régime arrive, en général, c'est pas un bon signe. On sait que les rois de l'époque avant, quand ils prenaient le pouvoir, souvent, pour s'assurer d'être tranquilles et que leur nouveau régime soit bien installé, on faisait exécuter toute la famille, tout ce qu'on pouvait de la famille d'avant. quand des régimes comme les nazis ou les soviétiques ont pris le pouvoir, ils ont vérifié que les gens qui avaient des idées, qui avaient investi et qui avaient un intérêt à ce que l'ancien régime reste en place, ces personnes-là, on s'en débarrasse. Et on va voir que c'est un contraste un peu bizarre parce que on lit ces choses et on se dit le jour du Seigneur, ça fait peur. Et en même temps, Pierre nous dit, il va nous dire plus tard de l'attendre avec presque avec une impatience, de le hâter, de faire nos efforts pour amener cette chose plus rapidement. Ça semble contradictoire de se dire toutes ces choses catastrophiques qui vont venir. Mais c'est, et on va le regarder, c'est si on est contre Dieu, ce jour du Seigneur, ça va être notre malheur. Mais si on est du côté de Dieu, si on est justifié avec Dieu, alors ce jour doit être notre joie. On revient à l'idée de ce qu'on a lu dans Amos. Si on est du bon côté, si on est en justifié vis-à-vis de Dieu, on peut se réjouir de cette chose. Et l'exemple d'Israël doit nous servir de faire attention. Et c'est un petit peu l'idée où il continue au verset 11. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? On doit faire attention. La Bible nous dit cette chose est sûre, ce moment vient, et puisque ce moment vient, on doit faire attention. On doit avoir une conduite, une piété sainte. On doit être prêt pour ce changement. On doit être prêt pour ce changement de régime. Pour revenir encore une fois à cette idée de changement de régime, si on vous dit, alors je prends un exemple un peu farfelu, mais imaginez qu'on vous dit, il va avoir quelqu'un dans 2 semaines a prévu de prendre le pouvoir et ils vont, j'en sais rien, ils vont interdire ou vous dire, si vous avez une voiture rouge, on vous met en prison. Sont racistes contre les voitures rouges, etc. Vous allez vous préparer ou pas? Vous allez vous dire, je vais garder la voiture rouge, tant pis, j'irai en prison? Vous allez vous dire, alors évidemment, c'est un peu léger de traiter l'histoire comme ça, parce qu'on sait les conséquences que ça peut avoir. Dans la plupart des cas dans l'histoire, les gens ne sont pas au courant, ça se passe sans qu'on le sache. C'est un petit peu le problème. De ce que Pierre dit plus loin, on est averti, nous. On n'a pas d'excuses. On sait ce qui va se passer. Et si on se fait avoir à l'arrivée, si on n'est pas prêt pour ce changement de régime et qu'on est investi et on est attaché à l'ancien régime, le nouveau régime, il va arriver, il va dire, bah, vous appartenez à l'ancien régime qu'on veut éradiquer. Ça doit nous motiver à obéir à la parole, à faire ce que Pierre dit ici. Notre conduite et notre piété. Conduite, c'est l'action de conduire, de mener, de guider. On peut dire que c'est la direction d'un ouvrage, d'un projet, d'une affaire. La manière d'agir, la façon dont chacun se gouverne. J'aime bien cette idée de se gouverner. Comment est-ce que je me gouverne? Comment est-ce que vous gouvernez vos vies? J'ai la tendance, la mauvaise tendance, et peut-être la facilité à critiquer le gouvernement. À critiquer peut-être comment d'autres se comportent, comment d'autres se conduisent. comment d'autres peuvent gouverner sur leur vie, mais est-ce que je me gouverne bien? C'est ça dont il parle ici. Combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Comment est-ce que vous gouvernez sur vos vies? Comment est-ce que vous le menez? Est-ce que vous le gouvernez comme Jésus vous demande de le faire? Comme Jésus me demande de le faire? Jésus, dans Matthieu 6, 33, dit: cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il dit un petit peu plus loin, il parle de l'idée de trésor. Où est votre trésor? Dans quoi est-ce que vous investissez? Est-ce que si vous savez qu'une banque va faire faillite, est-ce que vous allez leur donner tout votre argent? Si une entreprise est sur le point de faire banqueroute, est-ce que vous allez leur acheter leurs produits en ligne pour qu'ils vous le livrent la semaine prochaine? Non. Si vous savez qu'un pays est sur le point, si on sait qu'un pays est sur le point de changer radicalement et de tomber dans l'anarchie ou dans le chaos, est-ce que vous allez vous y installer, construire une maison et puis vous dire je m'installe ici? Non. Et l'idée ici, c'est ce changement de régime. Le régime actuel, c'est le monde. Et le monde va disparaître et un nouveau régime arrive. Alors, est-ce que vous investissez dans l'ancien régime qui va être complètement détruit, ou est-ce que vous investissez et vous commencez déjà à préparer le régime qui va arriver? Et Jésus nous dit, on doit chercher d'abord le royaume de Dieu, on doit investir d'abord dans le royaume de Dieu. Et l'idée que le monde va être détruit est difficile et intéressant aussi à se mettre en tête. Est-ce que, dans votre esprit, si je vous pose cette question, est-ce que le monde, la Terre, va durer plus longtemps que vous? Qu'est-ce que vous me dites? Ah, posé comme ça, tout d'un coup, on n'est pas sûr. Il y a une question piège, vous avez senti, c'est bon. La Bible nous apprend que nous avons une existence éternelle, que nos âmes vont durer à jamais. C'est fou finalement de se dire que, parce qu'on se dit la terre va, moi je vais mourir et la terre sera encore là. Mais la Bible nous dit autre chose. La Bible nous dit que nous on sera là bien longtemps après que la terre sera complètement détruite. C'est un peu, on sera pas là physiquement, mais on existera. Est-ce que ça change notre perspective sur ce monde? Oui, ça doit changer notre perspective. Ça doit changer la manière que nous avons d'envisager la vie et de voir que ce régime, ce monde ne va pas durer. Ça doit nous motiver. Combien notre conduite et notre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. On doit être prêt pour ce jour qui vient. C'est encore une fois la même idée. On ne sait pas quand ça va arriver. Il avait parlé de l'idée que c'était un voleur, comme un voleur dans la nuit. C'est une idée pour ceux qui sont venus à l'église assez régulièrement, vous l'avez entendu. Jésus en parle. Paul en parle. L'idée que ça va nous surprendre, ça va surprendre le monde. Il n'y a pas une période d'annonce où il dit bon, ben maintenant, Il y a un jour où tac, ça y est. Et on doit être prêt pour ce jour. Il y a des paraboles de Jésus qui parlent de ça, de l'idée de serviteurs qui attendent leur maître dans la maison et puis qui se disent, bon, le maître, il tarde, donc on va faire la fête, on va arrêter de faire notre travail, la maison, on va laisser un peu tomber en ruine, parce que de toute manière, il revient pas, on est tranquille. Puis tac, au milieu de la nuit, un soir, il arrive et il les trouve dans cet état-là. Jésus nous dit, mais c'est comme ça que ça va être. On doit être prêt parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. C'est fou parce qu'il y a dans le monde, si vous dites les... Je ne sais pas vous, moi je... En lisant ces textes, je suis repris parce que je me dis, je suis pas très... C'est pas forcément ma pensée le matin quand je me lève à me dire, peut-être qu'aujourd'hui c'est le jour. Là aussi, ça change notre manière de nous comporter et ça me reprend d'autant plus qu'il y a des gens qui sont prêts pour des choses encore, enfin, plus folles, j'ai envie de dire. Si ça vous intéresse, par curiosité, il y a des communautés, il y a des groupes de gens, il y a des journaux, des blogs, des sites web, surtout aux États-Unis, bon, je ne sais pas si ça existe autant en France, mais oui, où ils expliquent aux gens comment se préparer pour l'apocalypse. S'il y a une guerre nucléaire, s'il y a une catastrophe naturelle immense et qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de quoi acheter de la nourriture dans les supermarchés. Et les gens, ils ont des sites entiers où les gens se préparent et vous disent, il faut que vous ayez tant d'eau et que vous ayez tant de nourriture pour pouvoir survivre. Et il faut que vous appreniez à tel et tel truc pour pouvoir survivre dans la nature et manger des herbes et apprendre à tuer et pouvoir manger vous-même des animaux et c'est un peu les films, il y a assez de films apocalyptiques où les gens sont dans des espèces des déserts après la destruction mondiale et qui doivent survivre avec trois piles et un demi-fusil en mode MacGyver. Et vous les connaissez ces films, je suis sûr que vous en avez vu. Et l'idée c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à ça et nous on ne serait pas prêts pour quelque chose que Dieu nous dit va arriver de manière certaine. Eux, c'est un peu du, c'est un hobby parce que ça les amuse presque. C'est même pas du, on sait pas. On doit être prêt. Et il nous dit même dans ce qu'il dit au verset 12, attendez et hâtez la venue du jour de Dieu. On doit avoir cette attente comme une espérance, comme un espoir que ça vienne. Et il nous dit qu'on peut hâter ce jour. C'est bizarre, non? Que nous, on peut avoir une influence sur ça. C'est ce que la Bible nous explique assez clairement. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est biblique que par la prière, il y a des exemples dans Matthieu 6, 10, quand Jésus explique comment prier, il prie Dieu que ton règne vienne. Et dans Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse, il dit oui, viens Seigneur, viens. Par la prière, on peut prier Dieu qu'il revienne plus tôt. Et il y a l'idée que Dieu patiente jusqu'à un certain point et Paul, dans Romains 11, 25, parle d'une idée, il parle de la totalité des païens. Il parle de l'idée qu'il y a comme un nombre de gens, une fois qu'ils sont venus à Jésus, les commentateurs s'amusent à se dire, il y a quelque part dans le monde, il y a un gars, et quand il va se convertir à Jésus, Dieu va dire, voilà, c'est le dernier, et tac, on finit. On se dit, mais il faudrait aller trouver ce gars-là. Et Jésus en parle dans Matthieu 24, 14 en disant que c'est par l'annonce de l'évangile. Une fois que l'évangile est annoncé de partout, il dit, et à ce moment-là, la fin viendra dans Matthieu 24, 14. Et pourquoi est-ce qu'on doit s'y attendre un peu comme ça avec joie, parce que ça semble, comme je vous disais, un peu bizarre de le vouloir. C'est parce que nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Parce qu'on, si on est de son côté, si on est du côté de Jésus, il nous a promis qu'il va faire un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et que cet endroit, il y aura la justice de Dieu qui va habiter. Il y a différents endroits où c'est promis dans la Bible, mais c'est là aussi quelque chose de clair, l'idée que ce monde va passer et que Dieu va faire quelque chose de nouveau. Réfléchir et méditer sur le paradis, sur l'idée d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où la justice habitera. Déjà, si on pense à notre monde et on se dit, qu'est-ce que ça pourrait être bien? On pourrait être vraiment bien sur Terre déjà s'il y avait la justice de Dieu. La terre est belle, il y a tellement de choses dont on profite sur terre, il y a tellement de choses agréables, il y a tellement de choses incroyables sur cette terre déjà. Et Dieu nous dit qu'il va faire quelque chose, il va faire quelque chose de nouveau, de meilleur. Ça doit nous réjouir. Et réfléchir à ça, ça doit nous motiver. Moi, je vous avoue que quand je lis ces passages, souvent, je suis un peu j'ai un conflit intérieur où je me dis, oui, d'accord, c'est bien, mais pas trop vite, Seigneur. Je vais encore en profiter un petit peu. Vous êtes comme moi ou vous êtes complètement déjà bon et parfait? Vous vous dites déjà, c'est peut-être, hein, il y a des gens pour lesquels la vie sur cette planète est tellement horrible que je suis sûr qu'ils pourraient vous dire, je veux absolument partir tout de suite, notamment dans les pays persécutés. Il y a des chrétiens qui souffrent tellement. Nous, on a la chance de vivre dans une richesse et un confort matériel qu'on en vient à être un petit peu trop attaché à ce monde. Encore une fois, on est plus on investit ici, quoi. On est bien. Et Jésus veut que nous pensions à ce nouveau ciel, cette nouvelle terre où la justice va habiter. Il veut que nous nous considérions comme des gens sans attache ici, des gens qui passons. On n'est pas de ce monde. Et donc, je m'encourage et je nous encourage à essayer de réfléchir à ça, de méditer à ça, de prier que Jésus nous donne cette envie et cette joie, premièrement de le voir lui, mais aussi de nous dire qu'il y a ce nouveau régime, cette nouvelle chose qui va arriver et qu'il nous donne au fond de nous une vraie joie et une vraie attente et une vraie envie, une vraie espérance pour cette nouvelle chose et que ça affecte notre manière de nous comporter, que ça affecte notre manière de voir le monde autour de nous, les gens autour de nous. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Faites tous vos efforts. Il s'agit d'efforts. Il ne s'agit pas de on s'assoit et on attend ou on patiente. Est-ce que nous faisons des efforts pour être irréprochables, sans tache et en paix? Paul, dans 1 Corinthiens 9, versets 25 à 27, dit: tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire, mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, Mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir péché aux autres. Paul compare cette idée d'effort à l'idée d'un sportif qui fait tout ce qu'il peut pour gagner. Si je vous dis, si je me dis, la Bible me dit que je dois lire et méditer la parole de Dieu. Si je me dis, je vais prendre, je sais pas moi, 10 minutes par jour pour lire la Bible et pour prier, pour réfléchir à Dieu. Est-ce que ça vous semble difficile? Oui? Non? Ça semble pas difficile, mais après, dans la réalité, à le faire. Et Dieu nous dit, et la Bible nous dit, et Pierre ici nous dit, faites des efforts. Est-ce qu'on est à lutter? Est-ce qu'on est à se dire, il faut absolument que je fasse tout ce que je peux pour être prêt pour ce moment-là? Est-ce que ça remet en cause? Pour moi, hein, je me parle, est-ce que plutôt que de regarder la télé ou le match de foot ou quelque chose, sans que ces sauges-là soient mauvaises en elles, mais si elles me détournent et m'empêchent, est-ce que je suis prêt à faire un petit effort pour dire non, je vais faire un effort et j'ai cette chose qui m'appelle et je vais dire non, je vais essayer de prendre du temps, de bloquer du temps, de dire non aux autres choses, de faire ce que je sais que je dois faire pour être sans tâche et irréprochable et dans la paix, être en bonne relation avec Dieu et avec les hommes, pour connaître sa parole, pour connaître sa volonté, pour être en juste vis-à-vis de lui. Là aussi, on a la chance d'habiter, de vivre dans une époque où l'aisance matérielle est telle qu'on a peut-être plus l'idée de ce que c'est que vraiment faire des efforts. Peut-être certains d'entre vous, je ne juge pas, je parle pour moi-même. Faire des efforts, vraiment se donner du mal pour quelque chose, on le fait peut-être par moments de manière très brève, mais Jésus veut que nous le fassions. Et l'idée, c'est pas de se faire mal et d'être vraiment dans l'effort dur. C'est parce qu'on aime Jésus et parce qu'on veut lui obéir. Si vous aimez quelqu'un, si vous avez quelqu'un pour qui vous avez vraiment de l'amour, si vous devez faire des efforts pour être avec cette personne, c'est pas un problème. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, faire 2 heures de route, 15 heures d'avion, vous levez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour parler au téléphone. Imaginez ça, si votre amant ou votre mari ou votre femme est à l'autre bout de la planète et que vous devez vous lever à 4 heures du mat pour faire un Skype avec elle, parce que c'est à ce moment-là qu'elle est debout, vous le faites. Est-ce que je le fais moi pour Jésus? Et c'est ça, on doit avoir cet amour pour Jésus qui nous pousse à le vouloir. Et plus on le fait, plus ça va nous, plus on va connaître Jésus, plus on va avoir d'amour pour lui. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. La patience de notre Seigneur est votre salut. Comme je vous disais, la patience de Dieu a permis que nous soyons sauvés et permet que d'autres viennent chaque jour à lui. Sa patience doit nous réjouir, doit nous aussi nous donner de la motivation, nous dire tant que Jésus nous donne du temps à être sur cette terre et à faire sa volonté, on devrait profiter de ce temps pour en faire plus. La Bible nous dit de racheter le temps. Parfois, quand on vient à ces passages, on est pressé, on dit, bon, Jésus, tu veux bien en finir maintenant, tu peux accélérer le mouvement et juger le monde là, parce que c'est vraiment mauvais, hein, tout ça. C'est un petit peu comme les apôtres, il y avait Jacques et Jean qui voulaient que Dieu détruise des villages qui ne les avaient pas acceptés, comme Sodome et Gomorre. On a envie que ça se passe vite parce qu'on manque de grâce et on manque d'amour comme Jésus a. Paul, l'apôtre, on a parlé de cette patience et on a parlé aussi de ce fait que cette patience, c'est sa bonté. Dans Romains 2, 4, il dit: Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Et dans Romains 3, 25 et Romains 9, 22, dans d'autres circonstances et dans d'autres contextes, il parle de cette patience de Dieu comme étant quelque chose de bénéfique pour nous. C'est intéressant de voir Pierre parler du bien-aimé frère Paul. On sait qu'ils avaient eu des petites difficultés et que Pierre notamment avait... Paul avait repris Pierre pour des choses où il considérait qu'il ne se conduisait pas de manière bonne, qu'il faisait des choses en cachette et il l'avait repris. C'est bon de voir que Pierre a de l'estime pour lui, il parle de lui comme étant le frère bien-aimé, qui a de la sagesse. Et au verset 16, il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. Il ne dit pas ici que Paul écrit des choses compliquées et que du coup, c'est un petit peu, bon, Paul est toujours dans ses théologies. Non, il dit, il y a des choses qui sont compliquées et difficiles à comprendre. Et pour n'en citer que quelques-uns, on peut parler de l'idée de patience de Dieu. Il y a des gens qui le tordent et qui disent, oui, Dieu a oublié, Dieu n'existe pas, qui le détournent. L'idée de la justification par la foi, dans le Nouveau Testament, il nous explique qu'il y avait des gens qui disaient, si on est justifié par la foi, ça veut dire que ce qu'on fait, ça n'a pas d'importance, donc on peut faire ce qu'on veut et la grâce couvrira tous nos péchés. À la limite, si on pêche plus, ça sera mieux parce qu'il y aura plus de grâce qui sera manifestée. Il y avait des gens qui tordaient le sens de ces choses qui étaient la justification par la foi. Si vous pencher dans les commentaires, dans les choses, c'est des points théologiques qui peuvent être considérés comme difficiles à comprendre, à saisir. Je vous ai parlé du jour du Seigneur. C'est des idées qui peuvent être compliquées. Si on lit en passant, on lit un demi quelque chose ici, et il nous faut de l'humilité vis-à-vis de ces choses parce que on a certaines choses qui sont écrites, mais on n'a pas toute la connaissance. Et ces personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens. Ce sont des personnes qui ont un manque d'éducation dans la Bible et qui sont pas solides dans leur compréhension. Et c'est une exhortation et une mise en garde pour moi et pour vous que c'est pas parce que quelqu'un parle de la Bible que c'est forcément bon. Pierre nous met en garde, il dit, il y a des gens qui la tordent, qui la déforment et qui en font autre chose. Et par exemple, je vous encourage à faire attention quand vous m'écoutez, de vérifier ce que je dis. C'est pas parce que je suis ici que vous n'avez pas le droit de venir me voir après l'église et de me dire, je suis pas forcément d'accord, ou je n'ai pas compris, ou est-ce que il peut arriver que je dise des choses devant vous qui ne sont pas vraies? Je suis un homme et je fais de mon mieux pour essayer de vous présenter les choses correctement, et c'est pareil pour Pierre, et c'est pareil pour d'autres pasteurs, et je vous mets en garde fortement en ligne. Faites attention. Quand vous faites Google pour rechercher la définition d'un mot, ou que vous allez sur un site, ou que vous êtes sur Facebook et qu'il y a quelqu'un qui met une vidéo, faites attention. Vous êtes responsable de votre salut. Si vous connaissez pas assez bien la Bible parce que vous la lisez pas et que vous écoutez quelqu'un qui dit n'importe quoi et que vous gobez, c'est pas ma faute. C'est pas la faute de Jésus. Et il y a une réalité là. Et c'est pour ça aussi qu'on doit faire attention. Et ces personnes, elles le font dans d'autres écritures, elles tordent le sens, c'est pour leur propre ruine. Ça semble vouloir dire que ces personnes peuvent être disqualifiées du salut, peuvent perdre leur salut parce qu'elles ne comprennent pas la Bible et parce qu'elles disent n'importe quoi. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Je vous le disais tout à l'heure, on est avertis. C'est bien et en même temps c'est pénible parce que ça veut dire qu'on n'a plus d'excuses. On est avertis. Tenez-vous sur vos gardes. Nous, on n'a plus l'idée forcément de ce que ça implique, mais en temps militaire, ces derniers temps, j'écoute et je regarde des choses sur la Première Guerre mondiale, et les gardes, les gens qui étaient de garde, qui s'endormaient, on les fusillait. En termes militaires, c'est quelque chose c'est un des trucs les plus graves qu'on puisse faire en tant que soldat, c'est ne pas être sur nos gardes, c'est de s'endormir et de, c'est on laisse à l'ennemi l'opportunité de passer. Et on est averti et on doit être sur nos gardes. C'est du travail aussi. On doit faire des efforts. C'est pas rester pour les militaires, quand on regarde les choses qui se passaient dans la Première Guerre mondiale, les gars, ils étaient dans des conditions inhumain, abominable, et de se dire qu'ils devaient passer la nuit en faisant des efforts pour rester éveillés alors qu'ils avaient pas dormi, ou ils avaient dormi dans la boue depuis des semaines, ou enfin vraiment et c'est du travail, et on doit faire des efforts pour ces choses-là parce qu'on ne veut pas perdre cette position qui est la nôtre, cette position d'être assuré de notre salut vis-à-vis de Dieu, d'être trouvé en Jésus, d'être sûr de qui nous sommes vis-à-vis de Dieu. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. On doit grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il s'agit de la connaissance d'une personne. On doit grandir dans la connaissance de Jésus. Et ça ne veut pas dire qu'on doit apprendre plus de choses sur Jésus, qu'on doit apprendre plus de faits. On doit connaître Jésus. Et la Bible nous dit que c'est en lisant la parole de Dieu et en priant qu'on a cette connaissance de Jésus. Paul nous disait que son objectif, son but dans la vie, c'était la connaissance de Jésus. C'était le prix qu'il voulait atteindre dans Philippiens 3. Et c'était ce qui le motivait. Si vous voulez vous tourner dans Matthieu 7, lisons ensemble à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite, En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Ce passage semble me résumer l'idée de ce que je vous disais ce matin, c'est que Jésus dit, il y a des gens qui vont dire « Seigneur, Seigneur » et il va dire « Je ne vous ai pas connu ». Pierre nous exhorte à le connaître, à grandir dans la connaissance de lui. Et Jésus nous dit, c'est ces gens qui ne font pas ce que j'ai dit, qui ne font pas ce qui est dit dans la parole, c'est semblable à des gens qui ont construit leur maison dans le sable pour l'ancien régime. Quand la tempête va se lever, ça va être balayé. Ceux qui auront investi dans le nouveau régime, dans mon royaume, c'est ceux qui ont construit sur la pierre et ce jour du Seigneur qui va venir ne va pas l'emporter. Et ça doit être notre joie parce que ça doit être notre trésor, ça doit être ce qui nous motive. Jésus doit être notre motivation. Et ça, il nous fait grâce, il ne demande pas la perfection, il nous connaît. Il est plein d'amour pour nous. Ça ne doit pas nous abattre ces choses, ça doit nous motiver, nous exhorter. Ça doit me donner envie de faire mieux, de faire plus. Ça doit me donner envie surtout de plus connaître Jésus. Le changement de régime vient et il s'appelle Jésus. Et la question c'est, est-ce qu'il va répondre qu'il nous connaît quand on va faire appel à lui? Prions. Seigneur, merci pour ce matin. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu attends, Seigneur. Tu patientes pour que nous venions à toi. Tu patientes pour que nous... nous puissions te connaître davantage. Et parce que tu veux que d'autres hommes te connaissent aussi, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon parce que je ne t'aime pas assez. Et j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton aide pour plus t'aimer, Seigneur. Et je veux que ce jour qui vient, Seigneur, soit un sujet de joie pour moi parce que je suis connu de toi. Je veux être connu de toi, Seigneur. On veut que tu nous connaisses chacun, Seigneur. Aide-nous à faire ces efforts, Seigneur, à venir à toi. Tu es là, tu es proche de nous, tu nous attends, tu veux nos cœurs, tu veux nous aider, Seigneur. Tu es tellement plein de grâce et bon, Seigneur. On veut profiter et nous délecter, Seigneur, de qui tu es, de toi. On te demande, Seigneur, de nous amener, de nous ramener, de nous mettre devant toi, de nous mettre à tes pieds, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, dans nos vies, par ces choses. En ton nom, nous prions. Amen.